Chapitre 54. Patrick Lebrun soupira, visiblement mal à l'aise à l'idée de mettre un de ses collègues en difficulté, mais finit par se lancer. J'ai eu dans mes effectifs un médecin anesthésiste réanimateur, le docteur Marc Victor, un homme brillant, vif, avec de grandes idées surtout. Il intervenait à l'hôpital à mi-temps, alternant avec un poste de chercheur en neurobiologie à l'université. Je sais qu'il travaille là-bas sur des projets relatifs au réseau de la conscience dont j'ignore la teneur exacte. Les réseaux de la conscience? Comment apparaît la conscience? Naît-elle et meurt-elle avec le cerveau? L'esprit et le corps fonctionnent-ils de manière indissociable? On est sur ce registre, et c'est la raison pour laquelle les expériences de mort imminente l'intéressaient. Il s'est penché sur ces fameux cas où des patients auraient vu et entendu des choses alors qu'ils étaient en sédation profonde sur une table d'opération, donc complètement inconscients. Si leur cerveau ne présentait plus d'activité électrique, comment pouvaient-ils vivre une EMI? Vous voyez le paradoxe. Pas besoin d'être un éminent scientifique pour comprendre. C'était comme avoir de la lumière dans une ampoule alors qu'on venait d'éteindre un interrupteur. Ils hochèrent la tête. Le problème avec ce type d'étude, c'est que, hormis des paroles rapportées ou des sensations, il n'y a pas de preuves concrètes. Et puis, les EMI peuvent très bien se dérouler au moment où le cerveau reprend son activité et donner au patient l'impression qu'elle s'est passée avant. Le chef de service fit une pause, s'assurant que ses interlocuteurs assimilaient ses explications. Jusque-là, rien de compliqué. Un jour, je dirais que ça remonte à environ 5 ans. Victor m'a fait part d'une requête incongrue. Il voulait avoir l'autorisation de cacher au-dessus des armoires de chacune des chambres de soins intensifs et sans que personne soit au courant, un objet quelconque. Une balle de tennis, par exemple. Puisque nombre de témoignages de EMI mentionnaient des décorporations et des visions d'en haut, il cherchait à savoir si des patients qui auraient vécu une EMI dans l'une de ces chambres raconteraient avoir vu cet objet à leur réveil. Cela n'aurait pas constitué une preuve scientifique en soi, bien sûr, mais tout de même, ça aurait tendu à valider l'existence d'une conscience en dehors du cerveau. Je ne m'y suis pas opposé, je trouvais même l'idée astucieuse. Sans compter que ça l'aurait aidé dans ses travaux, sans pour autant perturber notre activité. Charcot repensa aux paroles de l'abbé François. Cette image du vent qui se matérialisait à la surface de l'eau sous forme d'onde, mais qui n'avait pas besoin de l'eau pour exister. L'âme continuait-elle à exister sans son support charnel? Sortait-elle du cerveau quand celui-ci ne fonctionnait plus pour y revenir une fois qu'il se remettait en route? Et ça a marché? Demanda-t-il avec intérêt. On ne peut pas dire que les résultats aient été concluants. Sur les 6 mois qui ont suivi le début de l'expérience, il n'y a eu que 2 témoignages, et il ne s'agissait pas de décorporation. Les EMI sont des phénomènes trop rares, trop aléatoires pour être étudiés de cette façon. Franck éprouva une forme de déception, sans savoir réellement pourquoi. Peut-être parce que, au fond, ça aurait laissé l'espoir d'un après. Victor a alors envisagé une solution 100 fois plus radicale pour obtenir des réponses. Monitorer sous EEG les patients qui arrivaient dans le service dans des états critiques. Le principe en soi était fascinant. Il consistait à observer ce qui se passe précisément à l'intérieur du cerveau au moment de la mort. Est-ce qu'il y a, à un instant donné, une intense activité électrique susceptible de générer un sursaut de conscience? Est-ce que les différentes zones du cortex s'éteignent les unes après les autres dans un ordre bien précis, ou l'arrêt de l'activité électrique est-elle simultanée? Autrement dit, comment cet organe meurt-il d'un point de vue purement scientifique? Aujourd'hui encore, personne n'a, à ma connaissance, la réponse à cette question. Les 2 flics échangèrent un rapide regard. Ce Victor commençait à cocher pas mal de cases. « Monitorer sous EEG n'est nullement invasif », précisa Patrick Lebrun. « Ce sont seulement des pastilles à coller sur le crâne. Pourtant, vous vous doutez que, même si c'était séduisant, aucun chef de service n'aurait accepté cela, d'un point de vue éthique. Et d'un, cela revenait à miser sur la mort des patients en question, et de 2, je ne voulais pas que les soins intensifs deviennent un centre d'expérimentation. Alors, j'ai rejeté sa demande. » Franck hocha doucement la tête.
C'était à quelle époque?
Je dirais courant 2018. C'en est resté là. Victor n'a plus jamais abordé le sujet. Il avait trop d'ego pour insister. Par contre, cela a jeté un froid évident entre nous. Il a fini par démissionner l'année dernière pour se consacrer intégralement à ses recherches. Franck réfléchit. Courant 2018. Calvard et Dubois avaient eu leurs arrêts cardiaques en 2019. D'un point de vue chronologique, ça pouvait coïncider. Après avoir essuyé un refus, Victor avait peut-être décidé d'agir dans le secret et l'illégalité. D'envoyer des patients de l'autre côté, à coups d'injections mortelles, pour prendre des mesures et interroger les survivants à leur réveil. Enfin, pour ceux qui se réveillaient. Soudain, le regard du médecin s'obscurcit. Il garda un temps le poing sous le menton, les yeux fixes, puis poussa un soupir. « Et puisque c'est la raison pour laquelle vous êtes là, autant que je sois transparent avec vous. C'est lui qui était le médecin en charge des deux patients que vous m'avez cités. Je viens de consulter leur dossier, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Ce que vous me racontez est impensable et je ne peux pas croire qu'il soit impliqué dans ces horreurs. Pourtant, nous avons maintenant un important faisceau d'indices qui vont dans ce sens, répliqua Charcot du tac au tac. Dubois et Calvard ne sont peut-être pas les seules victimes. Vous avez moyen de me sortir la liste des patients dont le docteur Victor s'est occupé, disons de mi-2018 jusqu'à son départ, et qui auraient eu des arrêts du cœur. Certains sont peut-être même décédés. Nous n'avons malheureusement pas la possibilité de croiser ce genre de données. Il va falloir faire cela manuellement. Je peux demander à un assistant de s'y coller et je vous recontacte. Ça risque simplement d'être un peu long. Charcot lui tendit une carte. « Faites-le et envoyez-moi les résultats. » « Une dernière question. Vous dites que le docteur Victor travaille dans un laboratoire ? Lequel ? »
« Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était dans le département de neurobiologie de l'université de médecine Vézal, à Creil. »